Christophe Nijdam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste chez AlphaValue et spécialiste du secteur bancaire dont on va parler avec vous aujourd'hui puisque vous avez sorti une étude sur ce secteur bancaire très fouillée, très détaillée sur le fait que eh bien, les banques, l'évolution de ce secteur bancaire passait sans doute par une séparation des activités, pour aller vite, spéculatives, des activités de banque de détail dans les activités effectivement de marché. Il y a aussi des activités d'investissement. On verra ce qu'il en est avec vous, mais avec pas mal d'arguments qu'on va voir ensemble. C'est dans l'air du temps, ces questions de stratégie des banques. On a vu aux États-Unis, on a vu en Angleterre. En France, on en parle aussi ou c'est un sujet tabou?
Alors, c'est un petit peu un sujet tabou. Néanmoins, le président Hollande, dans le cadre de sa campagne, avait fait une promesse qui était justement de séparer la banque casino de la banque de dépôt et de crédit. Et désormais, au niveau de l'agenda politique, la question va se poser sur le marché français. Mais sur le marché français, les deux seules méthodes de séparation éventuelle qui ont été évoquées, sur lesquelles il y a eu à peine un début de débat, c'est la méthode Volcker et la méthode Vickers, alors qu'il y a peut-être une troisième voie et qui est celle que nous préconisons.
On va dire que toutes les banques du monde entier sont concernées. Si on parle des règles aux États-Unis ou en Angleterre, est-ce qu'elles aujourd'hui, aux États-Unis, ça a marché longtemps avec le Glass-Steagall Act? Et vous dites, vous, que finalement, pendant 66 ans quasiment,
Oui.
ça a très bien marché, ça n'a pas empêché les banques américaines de se développer dans le monde entier.
Tout à fait, même chose au niveau des entreprises américaines. Ce n'est pas parce que leur banque était scindée en deux que l'esprit, disons, de conquête des entreprises américaines a été bridé. Même chose au niveau de l'économie américaine pendant la période en question. Les États-Unis ont eu une très forte croissance. Donc, de notre point de vue, l'argument qui est, et il y en a de nombreux qui ont été évoqués, de dire pas de Glass-Steagall Act parce que cela pourrait pénaliser le développement des entreprises françaises, cela pourrait pénaliser le développement international des banques françaises, sont des arguments qui, quand on les étudie de plus près, ne tiennent pas longtemps à l'analyse.
Alors, on a pu lire, bien sûr, la réaction des acteurs du secteur, notamment la Société Générale, par la voix de Frédéric Oudéa, qui est président de la Fédération bancaire française, qui dit une séparation totale, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, l'argument, c'est de dire pourquoi on le ferait nous alors que les autres ne le font pas.
Bien sûr, alors c'est un argument là aussi qu'il convient, disons, de discuter. Je ferai deux remarques. D'abord, dire qu'il n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui, c'est peut-être aller un tout petit peu vite, parce qu'il y a un début de débat public sur le sujet en Belgique, en Italie, et évidemment, après l'épisode récent de la fameuse baleine de Londres de JP Morgan, ça revient aussi sur la table aux États-Unis. La deuxième chose que je voudrais dire là-dessus, ça n'est pas parce que, par exemple, les Américains auraient une centrale nucléaire défectueuse qu'ils ne voudraient pas fermer chez eux, qu'on devrait faire la même chose chez nous. Si on a une centrale nucléaire défectueuse, peu importe ce que font les Américains chez eux, il faut la fermer chez nous.
Alors, on peut dire aussi que si l'on écoute les discours des banques, notamment françaises, au cours des dernières années, elles ont souvent mis en avant la résistance de la banque universelle, ce modèle à la française ou à l'européenne, mais à la française, qui a été promu par plusieurs grandes banques françaises, en disant que finalement, on a mieux résisté que d'autres banques européennes. Est-ce que c'est le cas?
Mais écoutez, c'est l'emphase de notre étude. D'abord, première chose sur le terme banque universelle, il n'y a pas d'universalité philosophique dans ce concept. Je préférerais plutôt parler de nos jours de banque conglomérale. Alors, ce que nous avons fait dans le cadre de notre étude, nous avons constaté des faits, ils sont là, ils sont têtus, ils sont désagréables à entendre pour les banques, mais les banques universelles à la française, les quatre côtés que nous suivons, depuis 2007, ont détruit 81% de leur valeur actionnariale, et ceci se compare à deux autres chiffres. 61% de destruction de valeur actionnariale pour les banques commerciales, c'est-à-dire qui ne sont pas selon le modèle français de banque universelle. Et quand on prend toutes les entreprises, tous secteurs confondus que nous suivons chez AlphaValue, 460 sociétés cotées, la destruction de valeur n'est que de 16%. En tout cas, on a bien pu identifier, à la suite de la crise de liquidité de l'été dernier, que ce modèle de banque universelle était en fait fragile et destructeur pour les actionnaires.
Qu'est-ce qui est le plus fragile dans cette banque de financement et d'investissement? Alors la banque de détail, de l'autre côté, on connaît, la plupart des Français ont un compte en banque, et donc voient ce que c'est que les dépôts qu'ils peuvent faire sur une banque, mais la partie banque de financement et d'investissement, qu'est-ce qui pêche? C'est le manque de moyens, c'est qu'il faut plus de moyens pour développer cette
Alors,
activité?
ce qui pêche, c'est le déséquilibre structurel au niveau de la liquidité de ce modèle de banque universelle. Là aussi, je vais prendre quelques chiffres pour un petit peu illustrer. En France, en moyenne, sur ces grandes banques, lorsqu'elles ont 100 euros de dépôt, elles consentent 115 euros de prêts à l'économie réelle. Crédit à l'habitat, crédit aux PME, crédit aux grandes entreprises. Il leur manque donc déjà 15 euros qu'elles vont chercher sur le marché interbancaire, c'est-à-dire auprès des autres banques, mais qui est un marché volatile. Or, quand on est dans le cadre d'une banque universelle, à ce déficit de trésorerie de 15 euros, il faut rajouter le financement du portefeuille de trading, les activités de marché, 60 euros. Donc 15 plus 60, ça me fait 75 euros. Le déséquilibre de la banque universelle au niveau de la trésorerie est multiplié par 5 à cause des activités de marché et aussi, dans une certaine mesure, du développement international de ces banques. Par exemple, lorsqu'on a un réseau en tant que banque française en Ukraine, on a très peu de dépôts locaux, on consent des crédits locaux, et là aussi, on augmente ce risque de liquidité, cette impasse de trésorerie.
Parmi les arguments des avancés toujours par les banques, on trouve également l'idée que finalement les entreprises françaises vont être défavorisées puisque si effectivement il y a cette séparation et que des banques américaines vont s'engouffrer dans la brèche pour financer des entreprises françaises.
Il faut bien comprendre que la séparation ne veut pas dire l'arrêt des activités de marché. On dit seulement ces activités de marché, il faut les séparer. On peut très bien en plus envisager, même si à ce stade c'est vraiment de la science-fiction, de fusionner deux ou trois des banques de marché françaises pour avoir un acteur de poids sensiblement supérieur aux Américains, le fameux donc syndrome du Goldman Sachs. Donc ça ne pénaliserait pas les banques françaises ni les entreprises si on sépare et on garderait des acteurs de taille majeure.
Ça veut dire effectivement pour elles, en tout cas, d'envisager ces questions-là. À votre avis, pourquoi elles sont, on va dire, pour l'instant, elles refusent d'évoquer cette partie-là, c'est-à-dire d'aller vers ce Glass-Steagall Act, en disant que finalement, la France avait tout à perdre si ces banques françaises allaient vers ce système-là?
Alors, ça a été un peu l'emphase de notre étude. On s'est dit, on ne va pas juste avoir notre approche actionnariale. Notre approche actionnariale, c'était quand même dire la destruction de valeur est massive. Si on veut, en tant qu'actionnaire, récupérer un peu de cette valeur, il faut scinder, ce qui permettrait de récupérer une partie de la décote liée au modèle de banque universelle. Bien, donc on a regardé ça, mais pour ce faire, on s'est mis du point de vue de toutes les parties prenantes des banques, donc pas uniquement les actionnaires que nous représentons, mais aussi les clients, les dirigeants, les déposants, l'intérêt national, le régulateur, le contribuable, bref, il y en a 10. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'en fait, quand on descend raison pour raison les parties prenantes, bah, il y a une catégorie de personnes, quelques dirigeants de banque, des traders dans les salles de marché, qui eux n'ont pas intérêt à cette scission, alors que le reste de la société civile et de la collectivité y a un intérêt très marqué. Donc la résistance, elle est là.
Donc elle est plus liée au management, aux rémunérations des traders, aux
Oui.
rémunérations des dirigeants des
Et
banques?
donc, en gros, hein, puisqu'on a les chiffres sur les bonus versés dans les banques françaises cotées, cela concerne 9 000 personnes, à rapprocher à un staff total des banques françaises dans le monde de 471 000 personnes. Donc en fait, on a 2% des employés de banque, les happy few, qui gardent en otage 98% du personnel des banques, parce qu'il faut quand même savoir que dans le cadre de cette crise, l'incivilité dans les guichets a fortement augmenté et l'amalgame entre le guichetier et le trader est fort. Si on veut, en tant que salarié de banque, ne plus souffrir de ces insultes, la scission, c'est aussi la bonne solution.
Du côté des perspectives, peut-être pour terminer, si elles ne le font pas ou si on va, comme ça arrive souvent en France d'ailleurs, on fait des demi-mesures, des réformettes, quels sont les risques?
Alors les risques, et c'est au niveau un petit peu macroéconomique, hein, à la suite de cette crise d'ampleur historique, a été identifié au travers du G20 le fait que certaines institutions étaient trop grosses pour faire faillite, c'est le too big to fail, et le problème des autres techniques de séparation Vickers et Volcker par rapport au Glass-Steagall, c'est qu'on ne résout pas du tout le problème de la taille. Donc on n'aurait pas atteint, en utilisant cette autre technique, l'objectif ultime de réduire la taille des banques pour en réduire l'aléa moral vis-à-vis de la collectivité.
Bien, merci d'avoir fait le point avec nous, Christophe Nijdam. On rappelle que vous êtes donc analyste spécialiste du secteur bancaire chez Alpha Value, et on précise qu'on a également invité la Fédération bancaire française qui peut venir quand elle veut pour exprimer effectivement son opinion sur le sujet. Merci à vous.
Merci.